Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What's the reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的母亲咱们家，
正忙着忙着忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h50 et pour tous les jours de la semaine, pendant que Florian Delorme prend quelques vacances bien méritées. Une émission réalisée par Doria Zénine et mise en onde par Régis Nicolas. Cette semaine, nous pénétrons dans le monde virtuel des jeux vidéo, des mondes virtuels qui font pourtant voyager de la Corée à l'Uruguay, en passant bien sûr par le Japon et les États-Unis. Lundi, nous avons exploré les différentes formes de sociabilité autour du jeu vidéo. Mardi, nous nous sommes penchés sur l'économie du jeu, cette machine de guerre industrielle. Demain, nous irons voir les implications politiques, voire idéologiques, que peut revêtir l'expérience du jeu. Mais aujourd'hui, Hollywood à la manette des liens trentenaires avec le cinéma, nous nous intéressons ce matin au rapport entre jeux vidéo et cinéma dans le monde.
Quand on a commencé à demander aux étudiants de travailler sur les jeux vidéo, la moitié d'entre eux, ceux qui faisaient une formation en réalisation, a refusé. Ils ont dit « Nous, on veut juste faire des films. Pourquoi devrait-on travailler sur les jeux vidéo? Ce n'est pas intéressant ou c'est trop violent. Ce sont des jeux de tir. » Puis la plupart d'entre eux ont changé d'avis, ont réalisé que c'est un nouveau média, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires qui est intéressante et qui touche un large public.
Ça a été quasiment 12 mois de tournage, quasiment non-stop. Je shootais tous les jours pendant 12 mois, donc c'est un énorme boulot avec plus de 160 acteurs sur le plateau. Donc voilà, tout ça c'est fait. L'objectif est toujours de créer une immersion émotionnelle pour le joueur, vraiment créer de l'émotion et lui proposer des émotions qu'il ne trouve pas toujours dans les jeux vidéo, mais qu'il trouve facilement au cinéma ou dans d'autres médias.
Vous aurez sans doute reconnu la musique de Mario, repris par l'Orchestre Philharmonique de Londres, et sur lequel on entendait d'abord Gunnar Wille, professeur à l'Académie Européenne Transmédia de Copenhague, où ce professeur essaie d'enseigner la polyvalence et le multimédia à des apprentis réalisateurs. Puis on a entendu la voix de David Cage, le créateur de Beyond Two Souls, un jeu vidéo sorti le 11 octobre dernier et qui a tout d'un film. Notamment parce que les personnages sont joués par des acteurs de blockbusters hollywoodiens, Ellen Page et William Dafoe. Depuis 30 ans, Hollywood et le monde des jeux vidéo entretiennent des rapports plus étroits que l'on ne peut le penser. On a tendance à comparer sous forme de concurrence ces deux industries, alors qu'il existe des liens forts à la fois économiques, industriels, mais aussi culturels, esthétiques, thématiques. Les deux secteurs se sont influencés réciproquement, se sont régulièrement cités et adaptés l'un et l'autre, pour finir parfois par se confondre peut-être. Alors nous irons tout à l'heure au Québec pour mieux comprendre le Japon. Nous serons en ligne depuis Montréal avec Martin Picard, qui a été chercheur à la Japan Foundation à Tokyo. Il nous parlera du média mix japonais, cette façon de ne pas penser un produit culturel simplement comme un film, un manga ou un jeu vidéo isolé, mais de le concevoir dès l'origine comme un phénomène multi-support. Nous irons aussi en Inde, à Pune, où nous retrouverons Alexis Madinier, qui dirige une école de jeux vidéo, l'Inde où ce sont les adaptations de films de Bollywood qui portent le développement du nouveau marché vidéoludique. Mais pour commencer avec nous en plateau, Alexis Blanchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et vous avez écrit « Des pixels à Hollywood » aux éditions Pixel 9 en 2010, ainsi que « Les jeux vidéo au cinéma » chez Armand Collin en 2012. Alors Alexis Blanchet, vous introduisez votre livre « Des pixels à Hollywood » avec deux anecdotes. La sortie en 2004 du jeu Halo 2 de Microsoft qui a rapporté 100 millions de dollars en 24 heures et la façon dont Bill Gates s'est vanté de connaître un premier jour d'exploitation bien meilleur que toute l'histoire du cinéma. Deuxième anecdote, la sortie simultanée en 2008 du jeu Grand Theft Auto 4 et du film Iron Man, deux blockbusters face à face. Alors, ces deux événements qui donnent l'idée d'une concurrence justement, alors que l'histoire culturelle d'Hollywood montre des parcours communs et croisés, Alexis Blanchet.
Oui, c'est vrai que le domaine du jeu vidéo aime depuis très longtemps se comparer au domaine du cinéma et particulièrement au cinéma hollywoodien. On sait que Hollywood a produit des imaginaires qui se sont diffusés sur toute la planète, que probablement le cinéma est le grand média du XXe siècle et le jeu vidéo voudrait bien être le grand média du XXIe. Alors, est-ce qu'il y réussit ? Il semblerait que son développement, oui, nous dit qu'aujourd'hui, on est face à un média qui a peut-être la puissance évocatrice du cinéma hollywoodien, mais aussi du cinéma indien ou même du cinéma français.
Alors, l'une des synergies essentielles entre jeux vidéo et cinéma est d'abord financière. L'un des exemples les plus connus de cette synergie industrielle, c'est le rachat de la société de jeux Atari en 1976 par Warner, une transaction qu'on estime entre 28 et 35 millions de dollars, c'est ça? Mais Alexis Blanchet, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de tous ces conglomérats qui vont se former à Hollywood.
Oui, c'est-à-dire que les années 70, elles sont marquées à Hollywood par une crise de la fréquentation des salles. Les gens se rendent moins en salle de cinéma et les majors hollywoodiennes vont essayer de repenser le spectacle cinématographique. 1971, c'est l'année qui connaît le taux le plus bas de fréquentation des salles. Et ces majors hollywoodiennes vont essayer de repenser le spectacle cinématographique dans un contexte qui est celui de conglomérats auxquels appartiennent ces majors, conglomérats qui ont des activités dans des domaines très variés. Les premiers conglomérats, je pense à la Kinney par exemple, qui possède les studios Warner, possède des activités dans le domaine de la concession funéraire, de la gestion de parking, de l'immobilier, et puis une activité de production cinématographique. Au début des années 70, ces conglomérats vont essayer de se repenser autour d'un domaine, un grand domaine qui est celui du divertissement, et donc vont se constituer avec des activités autour de l'audiovisuel, de la télévision, de la presse, de la bande dessinée. C'est le cas par exemple de Warner Communication Incorporated, qui possède les comics DC Comics, c'est Superman, c'est Batman, c'est Green Lantern, qui possède des productions de pour la télévision, des studios qui sont loués à la télévision, du disque Warner Chappell, des franchises sportives, les New York Cosmos appartiennent à Warner Communication Incorporated. Et très rapidement, ces conglomérats et ces majors intégrés à des conglomérats vont voir se développer ce nouveau secteur, qui est un secteur qui au départ naît dans un domaine qui est celui de l'amusement, c'est-à-dire les machines de jeu. À partir de 71-72, on voit apparaître de nouvelles gammes de machines de jeu qui utilisent des écrans. C'est ce qu'on appelle le jeu vidéo d'arcade. Le premier grand succès du jeu vidéo d'arcade, c'est Pong, c'est-à-dire cette simulation de tennis, qui va, d'une certaine façon, complètement renouveler la face du secteur. Et le secteur du jeu vidéo d'arcade va se développer très rapidement, va être très rapidement avoir des chiffres d'affaires assez exceptionnels, et ces majors vont prendre position dans ce secteur. Elles ne veulent pas rééditer la catastrophe qui a été l'arrivée de la télévision dans les années 50. Les majors n'ont pas vu arriver cette concurrence. Se sont constituées des positions de force, ce qu'on appelle les networks, ABC, CBS, NBC. Et donc cette fois-ci, ces majors se disent, on va prendre position sur ce secteur. Donc il y a le cas qui est en effet le cas assez emblématique, c'est-à-dire Warner Communication qui rachète Atari, cette petite structure qui s'est créée en 1971 et qui est rachetée pour une somme considérable. Là, on dit que la structure a été fondée pour $500, elle est rachetée pour une somme de plusieurs dizaines de millions de dollars 5 ans après. On va donc acheter directement cette structure-là. Et puis, il y a d'autres stratégies, par exemple de la prise de participation dans des studios de développement de jeux vidéo ou de la prise de participation dans des entreprises qui font des machines de jeux et qui donc vont faire du jeu vidéo. Et parfois aussi la constitution de filiales ex nihilo. On pense à la 20th Century Fox qui développe sa structure d'édition et de distribution de jeux vidéo. Donc, les liens économiques sont très forts, très marqués, et l'argent de ces conglomérats auxquels sont liés ces majors va soutenir et permettre au secteur du jeu vidéo de se développer. Je donne un dernier chiffre pour se rendre compte de ce que ça représente. Le chiffre d'affaires global de Warner Communication Incorporated au début des années 80 est garanti à plus de 30% par l'activité des jeux vidéo. Le jeu vidéo représente 30% de ce chiffre d'affaires avec toutes les activités que j'ai citées auparavant.
Donc le jeu vidéo participe de ce qu'on appelle le New Hollywood, c'est ça ? Et en l'intégrant dans cette logique, c'est Hollywood qui transforme le jeu en industrie culturelle mainstream ?
Alors, le New Hollywood, c'est le nom qu'on a donné à cette réorientation de la production hollywoodienne vers des productions spectaculaires. Il y a une inflation des budgets, il y a la volonté de se tourner vers les effets spéciaux, et il y a aussi la volonté de se tourner vers un public assez spécifique, qui est un public masculin, plutôt jeune, des adolescents et des jeunes adultes, qui sont historiquement la partie de la population qui se rend le plus en salle de cinéma. Il se trouve que ce public, c'est aussi le public qui se rend le plus en salle de jeux vidéo d'arcade. Et puis, à partir de 1975-1976, c'est aussi le public qui va être intéressé par les premières consoles de jeux vidéo domestiques, c'est-à-dire ces machines qu'on va brancher sur le poste de télévision. D'ailleurs, en débranchant la prise antenne pour brancher une autre prise sur la prise antenne. C'est une vraie révolution, l'arrivée du jeu vidéo domestique, parce que ça constitue le poste de télévision en terminale. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, puisque le poste de télévision était un récepteur auparavant. Donc il y a vraiment cette idée d'aller toucher ce public plutôt masculin. Il faut aussi rappeler, parce que les gens ont souvent l'image du jeu vidéo comme un domaine qui intéresse les enfants et les adolescents. Mais cette image du jeu vidéo comme s'adressant aux enfants et aux adolescents, elle est plus tardive historiquement. En fait, il faut attendre les années 80 et surtout la politique qui est menée par Nintendo aux États-Unis. Dans les années 70, on est vraiment sur un divertissement tout public qui se passe dans des salles d'arcade. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ne sont pas accessibles aux plus jeunes.
Alors, il y a quelqu'un qui va marquer un tournant important dans ces liens entre le jeu vidéo et le cinéma. Cette personne, c'est George Lucas avec sa trilogie Star Wars. C'est le premier à comprendre l'importance de l'adaptation en jeu vidéo de ses films avec la filiale LucasArts et plus largement la création d'un univers bien au-delà du film sur grand écran. Alexis Blanchet.
Oui, alors Star Wars va marcher en deux temps. On sait que c'est un film assez emblématique des politiques de diversification autour des films de cinéma. À partir des années 70, un film de cinéma ne se rentabilise que très rarement en salle. Il faut trouver d'autres moyens de rentabiliser ses productions. On dit souvent que le génie de Lucas a été de comprendre la question des produits dérivés autour de ses films. Et à partir du deuxième épisode, L'Empire contre-attaque, il va avoir vraiment la main mise sur la diversification sous forme de mugs, de parures de lit, de t-shirts et également de jeux vidéo. Alors, ce qui est assez étonnant dans la stratégie de George Lucas, c'est qu'il va en effet constituer une première structure, Lucasfilms Games, au début des années 80. D'ailleurs, structure au départ qui est intégrée à ce qui deviendra par la suite ILM, c'est-à-dire la filiale qui va s'occuper des effets spéciaux numériques. Cette structure qui s'intéresse au jeu, elle ne va pas s'occuper tout de suite de Star Wars. Il va falloir attendre en fait le début des années 90 pour voir LucasArts, donc la filiale de jeux vidéo qui a été renommée ainsi, commencer à développer et à éditer des jeux autour de la franchise Star Wars. Dans les années 80, Atari, par exemple, le géant de l'arcade, va racheter les droits de Star Wars pour faire d'ailleurs des jeux vidéo d'arcade techniquement assez bluffants pour l'époque. Ils utilisent des graphismes vectoriels. Et la première adaptation de Star Wars en salle d'arcade reprend en fait la séquence finale du premier film de 77 en ayant trois séquences, le survol de l'approche de l'étoile de la mort, son survol et ensuite le passage dans le canyon artificielle qui clôt le film. Donc il y a ce moment, cette séquence, ce morceau de bravoure qui est repris et qui est constitué pour les jeux d'arcade Atari en jeux vidéo. Au début des années 90, va y avoir là un développement très fort qui va se continuer jusqu'à aujourd'hui de jeux vidéo dans l'univers de Star Wars, d'abord sous la forme de la reprise à un des films, et puis dans une logique qui est vraiment une logique de développement de l'univers Star Wars qui va donner lieu à des jeux très variés. On a des simulations de conduite, on a des jeux de plateforme, on a des simulations de vol, on a des jeux d'aventure, etc. etc. Donc il y a vraiment une masse de jeux, probablement aujourd'hui plus de 150 jeux qui sont dérivés pour 6 films seulement, ce qui est tout à fait considérable et qui en fait un cas très particulier dans ces processus d'adaptation. En revanche, ce qui est intéressant chez LucasArts dans les années 80, c'est-à-dire au moment où LucasArts ne travaille pas sur les films Star Wars, il va y avoir vraiment un élan créatif très fort. Les jeux LucasArts, particulièrement les point and click, sont très réputés pour leur ancrage dans des univers de genre cinématographique. Le film de pirates, par exemple, qui est repris dans une série de jeux de point and click, Monkey Island. Et surtout, la qualité de ces jeux vidéo qui sont développés avec des outils pour développer des point and click. Donc, il y a une vraie volonté de créer cette filiale pour produire un effort créatif dans le domaine du jeu vidéo.
D'ailleurs, je cite Georges Lucas que vous citez dans votre livre qui dit à propos des jeux vidéo, c'est du cinéma, seulement on finit par tourner 10 films différents. On a toutes ces options et à chaque fois qu'on joue, on joue avec le spectacle. Ça peut être un film complètement différent.
Oui, alors ça, c'est bien évidemment, c'est aussi dû à l'époque. Hein, le jeu vidéo qui se développe dans les années 80, on est encore dans ce moment où on le compare aux médias précédents, comme on a d'ailleurs comparé au début du XXe siècle le cinématographe naissant au théâtre ou au numéro de cirque. C'est vrai qu'il y a probablement la volonté chez les premiers créateurs de jeux vidéo de retrouver dans leurs œuvres vidéoludiques à la fois l'immersion fictionnelle propre au cinéma spectaculaire, le goût de la fiction, le goût de l'épique, de proposer des expériences qui soient aussi immersives qu'un film spectaculaire, un blockbuster de l'époque.
Alors cette logique de multiplication des supports et des produits dérivés, c'est un peu la préfiguration de ce que l'on appelle le média mix. Allez, direction le Japon. Au Japon avec Hatsune Miku, cette chanteuse virtuelle qui fait un succès colossal, qui connaît un succès colossal au Japon. Alors au Japon, les biens culturels ne sont pas pensés comme films ou comme jeux vidéo isolés, mais comme un ensemble déclinable. C'est le Media Mix. Alors Martin Picard, bonjour, vous n'êtes pas au Japon, mais au Québec. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Montréal, vous avez écrit une thèse sur l'influence du jeu vidéo sur le cinéma. Et en 2012, vous avez bénéficié d'une bourse de recherche en études japonaises de la Japan Foundation à l'université Wako à Tokyo. Pendant un an, vous y avez étudié la culture du jeu vidéo au Japon. Et ce que vous constatez, c'est que la pratique du Media Mix s'est imposée dès les années 60 comme fonctionnement de l'industrie culturelle japonaise.
Oui, exactement. Dès les années 60, en fait, tout ça a commencé surtout avec la fameuse série Astro Boy, où dès les premiers mangas, en fait, sortis ensuite lorsque Osamu Tezuka, donc le fameux créateur de la série et du fameux personnage de Astro Boy, pour en fait rentrer dans son argent pour produire la série télé, a décidé donc de se concentrer sur la vente de produits dérivés. Donc c'est comme ça que en fait a commencé les premières idées derrière le Media Mix, qui est en fait dès les années 60 plus une pratique de marketing, de mise en marché par les compagnies publicitaires. Donc, mais petit à petit, avec les années et d'autres compagnies, par exemple, comme compagnie d'édition de livres, telles que Kadokawa, donc ont poussé l'idée plus loin en intégrant plusieurs médias lorsqu'ils développaient une franchise ou un univers fictionnel ou un personnage.
Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Japon, toute la consommation est basée autour d'un personnage qui est déclinable à l'infini sur autant de supports que possible.
Oui, exactement. En fait, c'est des supports, évidemment, qui vont chercher certaines niches de marché, certains publics plutôt restreints. Ça, c'est un modèle qui s'est développé surtout dans les années 90. Donc, on s'est aperçu, évidemment, que les personnages vendaient. Et ça, bon, en fait, c'est depuis également aussi depuis les années 60, surtout chez les enfants, mais même, en fait, hein, tous les adultes préfèrent, les adultes japonais préfèrent, aiment beaucoup les personnages. Il y a toute une culture autour des personnages. Donc, ils sont sont aperçus évidemment que les au-delà même d'une histoire, hein, d'un récit comme tel, ce qui était davantage important, c'était la création d'un personnage attractif et également lié à un univers fictionnel. Mais parfois, seulement les personnages, on prend par exemple l'exemple de Hello Kitty, qui a été créé par la compagnie Sanrio, donc qui est un personnage un peu, non pas associé à aucune œuvre médiatique, mais qui est devenu, hein, par après, évidemment, qui s'est mis à être décliné, hein, sous toutes les formes. Donc, c'est un modèle comme tel qui a été développé au fil des années, surtout qui a été poussé, surtout à partir des années 90, encore une fois, surtout par la compagnie Kadokawa, qui a ciblé davantage le public otaku.
Au départ, Martin Picard, le jeu vidéo n'était qu'un produit dérivé parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est un média important dans ce mix culturel?
Oui, tout à fait. En fait, évidemment, au Japon, les médias principaux restent surtout le manga, hein. Une grande partie des déclinaisons, par exemple, des médiatiques partent du manga et aussi l'anime. Par exemple, bon, Mark Steinberg, qui a écrit un livre sur, un des premiers livres d'ailleurs, en anglais, sur le Mediamix, hein, le Mediamix japonais, va parler d'anime Mediamix pour montrer à quel point que l'anime est au cœur comme tel du Mediamix, mais on pourrait évidemment dire le manga. Et en troisième, on pourrait dire aussi le jeu vidéo. Le jeu vidéo a surtout été, au départ, en effet, lié aux produits dérivés, mais quand même, très rapidement, dans les années 80-90, hein, entre autres, bon, certaines franchises très populaires, comme franchise de Mario, évidemment, et par la suite, Pokémon, en fait, le jeu vidéo est devenu comme tel de plus en plus important dans ce Mediamix. Un point tel que, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de Mediamix qui commencent, hein, par le jeu vidéo.
Aujourd'hui, ce qui a beaucoup de succès au Japon, ce sont les personnages virtuels qui chantent, qu'on appelle Vocaloid, comme Hatsune Miku. Alors, on en a entendu un extrait tout à l'heure. Je crois que Hatsune Miku, c'est l'un des jeux vidéo les plus vendus sur Nintendo ces derniers temps au Japon. Mais c'est bien plus que ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène, Martin Picard?
En fait, c'est encore une fois, hein, c'est un phénomène qui tourne autour du personnage comme tel. En fait, c'est au départ donc un programme, hein, de synthèse vocale. En fait, c'est Yamaha qui a développé un logiciel de synthèse vocale pour permettre justement de synthétiser du chant, hein, synthétiser du chant et permettre aux utilisateurs donc de créer leur propre chanson en entrant des paroles, hein, des sons et des mélodies. Et donc, chaque banque de voix est associée à un personnage. Et donc, est synthétisée à partir d'une voix, évidemment, d'une voix réelle, et surtout à partir de des voix d'acteurs, voix d'acteurs et d'actrices, surtout les ce qu'on appelle en japonais les seiyuu, donc ceux qui font du doublage, par exemple, d'animé, et qui font aussi la chanson, qui sont aussi chanteurs. Donc, on va synthétiser comme tel leur voix, créer une banque de voix à partir de ça, mais surtout, ce qui est très important, ce qui a permis, selon moi, la popularité du phénomène, c'est d'associer un personnage, hein, d'associer le personnage à cette sorte de boîte vocale. Et ça a été le cas, par exemple, avec la société Cryptome Future Media, qui a donc développé cette banque de sons à partir de la voix d'une seiyuu quand même assez connue, appelée Saki Fujita, mais ils ont créé un personnage qui est Miku Hatsune autour de cette banque de voix-là, et elle est devenue vraiment très, très, très populaire depuis là, les 4-5 dernières années. En effet, même plusieurs jeux vidéo, autant en arcade, hein, et que sur console portable, et même sur aussi console maison, comme sur la PlayStation, sont devenus donc très, très populaires et des très bons vendeurs.
C'est-à-dire que ce personnage de jeu vidéo, aujourd'hui, fait même des concerts en hologramme devant des milliers de Japonais.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et même de plus en plus à l'extérieur du Japon, comme par exemple à Los Angeles, il y en a eu un là quelques années. Donc oui, en effet, ça devient... donc c'est aussi hein, l'intérêt derrière ça, c'est plus que juste un simple personnage associé à un média, hein. Ça devient vraiment comme tel une icône culturelle, une icône populaire, hein. Une idole même, une idole virtuelle, ce qui est assez particulier.
Alors ce que permet ce média mix, c'est aussi des phénomènes cycliques qui permettent d'entretenir les ventes durant de longues années, Martin Picard.
Oui, tout à fait. Hein. Justement, là, on parlait par exemple d'une franchise comme Pokémon, hein, qui encore vit autour de ce Mediamix-là, et ça remonte bon d'autres aussi comme Mario, quoique Mario reste quand même au centre du jeu vidéo et ce qui tourne autour est davantage du produit dérivé. Par contre, Pokémon vraiment est une franchise pensée médiamique, c'est-à-dire que chaque nouvelle itération est pensée en fonction aussi de des autres médias hein, qui vont accompagner, que ce soit l'animé ou le manga. Bon, évidemment aussi les trames sonores qui sont aussi importantes dans ce médiamique. C'est là et les figurines, hein, la vente de figurines qui est aussi très importante. Un certain point que finalement, par exemple, certaines franchises hein, vont être développées, par exemple la franchise Dot Hack de Cyber Connect 2, produit entre autres par Bandai. Hein, Bandai qui est une compagnie de jouets qui, dès les années 80, s'est investi autant dans le jeu vidéo que dans à développer des consoles et à développer des franchises. Hein, MediaMix, évidemment, bon, ils ont plusieurs licences de personnages très, très connus. Donc, ça leur permet évidemment hein, de jouer davantage sur ce MediaMix-là. Donc, Dot Hack était une franchise qui était pensée comme un MediaMix à la base, c'est-à-dire la même journée de la sortie du jeu vidéo, il y avait la sortie du manga et d'un animé.
Alors, pour finir, une dernière question, Martin Picard. Oui. Assez bizarrement, le MediaMix, à part pour quelques franchises comme par exemple les Pokémon, ne s'exporte pas très bien.
Non, tout à fait. En fait, justement, il n'y a pas, ce bagage culturel-là à l'extérieur du Japon autour de la consommation de produits dérivés, surtout dérivés des personnages. Donc, c'est quelque chose qu'on peut dire hein, qui est lié surtout à ce qu'on appelle la culture otaku, hein, qui, eux, aiment beaucoup, justement, consommer tout ce qui tourne autour d'une franchise, essayer d'embrasser la totalité comme telle de l'ensemble d'une franchise. Ici, c'est un peu moins le cas. Donc, on va surtout consommer une ou deux œuvres, par exemple, bon, un jeu vidéo. Si on aime, on peut acheter un animé, on peut acheter un manga ou on peut aller voir l'animé qui est relié, mais on n'ira pas au-delà de ça, c'est-à-dire de consommer les trames sonores, les figurines. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier au Japon et qu'ils ont de la misère à développer comme tel à l'étranger.
Merci beaucoup, Martin Picard, depuis Montréal, chargé de cours à l'Université de Montréal, ancien chercheur à la Japan Foundation à l'Université Wako à Tokyo. Alexis Blanchet, pourquoi le MediaMix ne s'exporte pas alors que l'on voit le succès incontestable de franchises comme Star Wars ?
Oui, c'est-à-dire, je pense que, comme Martin l'a expliqué, il y a vraiment des différences assez fortes sur la manière de considérer les rapports entre les œuvres. En Occident, il y a vraiment des circulations très fortes entre, je vais dire, des objets sources, ça peut être des textes littéraires, des séries télévisées, des dessins animés, qui vont donner des films. On pense au film Harry Potter, par exemple, ou on pense au film adapté de, je sais pas, de séries télévisées comme Chien Fais-moi peur, par exemple, ou Drôle de dame. Et à partir de ces films, on va faire des jeux vidéo. Hein. Les processus d'adaptation fonctionnent vraiment de la source au film et au jeu vidéo. Il y a une forme de filiation ou de rapport un peu hiérarchique entre les œuvres qui fonctionne pas de la même manière dans l'industrie japonaise. Alors, ça n'empêche qu'on a des cas, et moi j'avais pu étudier le cas d'une franchise comme Alien vs Predator. Alors Alien vs Predator, c'est quoi ? C'est à l'origine un éditeur de comics américain qui s'appelle Dark Horse, qui est très spécialisé dans l'adaptation de films de cinéma grand public, et Dark Horse a produit des adaptations comics des films Aliens et des films Predator. Et à l'occasion d'une séance de brainstorming, les auteurs essayent de chercher de nouvelles idées au début des années 90, et au cours de ce brainstorming, quelqu'un dit « mais on pourrait faire, dans la grande tradition du comics américain, un crossover, une rencontre entre la franchise Alien et la franchise Predator ». Ils passent un coup de fil à l'ayant droit qui est la Fox, et ils ont un juriste à la Fox qui leur dit « ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, et ça va donner lieu à plusieurs séries de comics chez Dark Horse durant toutes les années 90 ». Et parallèlement, des éditeurs de jeux vidéo qui voient arriver cette nouvelle franchise vont se dire « mais est-ce qu'on pourrait pas exploiter ça sous forme de jeux vidéo ?» Et il y a des jeux vidéo Alien vs Predator qui vont être réalisés dans les années 90 jusqu'aux années 2000. style qui sont d'une certaine façon pas basés sur les comics eux-mêmes, mais qui reprennent l'idée d'une rencontre entre ces deux univers. Donc on retrouve sur un cas là aussi, qui est un peu comme les jeux vidéo Star Wars, assez unique, finalement des process très opportunistes, hein, c'est-à-dire il y a vraiment pour chacun l'idée de trouver un univers, mais qui vont donner à partir de films de cinéma, de la bande dessinée, des jeux vidéo, simultanément, hein, qui vont fonctionner de manière parallèle.
Depuis 2005, Alexis Blanchet, vous avez constitué une base de données de l'ensemble des films adaptés en jeux vidéo. Je crois qu'aujourd'hui, les adaptations de films représentent quelque chose comme 10% de l'édition de jeux. Est-ce que vous diriez qu'il y a une industrialisation ou une systématisation de l'adaptation et de l'édition multisupport ?
Alors, je peux dire aujourd'hui qu'il y en a eu une, mais l'état actuel de mes recherches montre qu'à partir de 2006, ce phénomène baisse et tend tout doucement à je ne vais pas dire disparaître, mais à se modifier. Il y a une mutation un peu de la forme des adaptations. Les adaptations, on les trouve depuis les années 70. La première adaptation officielle, c'est 79 et c'est Star Trek, le Star Trek de Robert Wise qui est adapté en jeu vidéo d'arcade. Et puis, au cours, jusqu'à la fin des années 2000, c'est plus de 550 films, hein, qui sont concernés par ces processus d'adaptation. Alors, certains sont simplement adaptés sous la forme d'un seul jeu. Je sais pas, je pense par exemple à un film comédie française comme Un Indien dans la ville, qui donne lieu à un jeu sur Game Boy au début des années 90. Et puis, on l'a vu, il y a des jeux comme les Star Wars ou les Terminator qui, eux, donnent une multitude d'adaptations. Il y a trois temps de l'adaptation. Dans un premier temps, les game designers vont aller chercher dans le film une séquence qui peut être traduite sous forme de jeu, par exemple ce que je disais auparavant sur le jeu de vidéo d'arcade Star Wars. Au début des années 90, on va aller chercher dans le film quelques séquences qui sont transformables en séquences de jeu et on va beaucoup s'appuyer sur les décors. Je pense par exemple aux adaptations de Batman qui permet un niveau dans Gotham City, un niveau dans les égouts de Gotham City, un niveau au musée, puisqu'il y a une séquence dans un musée dans le film de Tim Burton de 90. Et puis, à partir du milieu des années 90, il y a un phénomène qui touche très fortement l'industrie du jeu vidéo, c'est l'émergence des moteurs 3D, c'est-à-dire on va modéliser des espaces en 3D. Et à ce moment-là, il y a vraiment l'idée qu'on va travailler les univers des films. Ça se lit très bien sur les jaquettes de ces adaptations. Jusqu'au milieu des années 90, la promesse qui est faite, c'est revivre l'histoire du film. À partir de 95, c'est découvrir l'univers du film. Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui est très fort. Et je vais dire qu'à partir de 2006, on a de nouveaux phénomènes. On n'est plus du tout dans cette relation un film, un jeu, mais on va trouver des formes hybrides. Par exemple, je pense à la série des Lego, Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire la rencontre de deux franchises, une franchise de jeux vidéo, d'ailleurs assez populaire du côté des gamers, une franchise de films de cinéma très porteuse et très spectaculaire, et on va créer une série de jeux vidéo à partir de ces deux franchises. Ça va donner Lego Star Wars, qui a produit 4 ou 5 épisodes depuis le milieu des années 2000. Et puis, on a d'autres phénomènes qui sont ceux de l'arrivée de personnages de jeux vidéo de personnages de films de cinéma dans des jeux vidéo. Je pense par exemple à Soul Calibur 5, qui permet sur les différentes plateformes de jouer avec Yoda de Star Wars ou avec Dark Vador de Star Wars également. Et donc, on a comme ça des formes d'invitation de petits morceaux d'univers de films qui vont s'intégrer à la syntaxe des jeux vidéo en question.
Alors, à l'inverse, certains personnages de jeux vidéo sont devenus tellement célèbres qu'ils ont été adaptés au cinéma avec plus ou moins de succès.
Ils sont frères. Ils sont plombiers.
Ah oh non. Mario. Luigi.
Ils sont sur la piste. D'une princesse kidnappée. Et d'un mystérieux fragment de météorite.
Voilà, on entend le Super Mario Bros. D'Annabelle Jankel et Rocky Morton sorti en 93. C'est la première adaptation de jeux vidéo au cinéma, ou l'une des premières, mais pas la meilleure. Mais on voit quand même, est-ce que à un moment donné, Hollywood a été en mal d'imagination pour aller chercher ces thématiques dans le jeu vidéo pour se renouveler ?
Alors, le cas de Super Mario, on peut dire que c'est la première adaptation en prise de vue réelle d'un jeu vidéo. Le Japon, toujours un petit peu en avance avec les phénomènes de Mediamix, avait déjà adapté en film d'animation dès la fin des années 80 une série de jeux de rôle japonais très populaire qui s'appelle Dragon Quest. Super Mario, il marque une chose très importante, c'est la considération que le cinéma et le cinéma hollywoodien va avoir vis-à-vis du jeu vidéo. À partir du début des années 90, il est possible et envisageable d'adapter un univers de jeu vidéo en film de cinéma. Et on va avoir depuis 1993 et ce premier Super Mario Bros. Aujourd'hui une soixantaine de films de cinéma qui sont tirés de jeux vidéo ou de franchises vidéoludiques. Alors ce qui est intéressant dans ces phénomènes, c'est qu'on a beaucoup de ces jeux vidéo adaptés qui sont des jeux vidéo qui ont déjà des sources cinématographiques très marquées. Je pense par exemple à la série des Resident Evil, qui sont des jeux vidéo d'horreur, comme la série des Silent Hill. Je pense aux films Street Fighter ou Mortal Kombat, qui sont basés sur les films d'arts martiaux, ou aux films d'aventure avec Tomb Raider, bien évidemment, hein, qui n'est que, finalement qu'un décalqué de Indiana Jones. Donc il y a une sorte de boucle qui se crée. On part du cinéma qui crée des franchises de jeux vidéo assez populaires, qui ont des sources cinématographiques très marquées. Et puis, à partir de ces objets d'une certaine façon considérés comme adaptables par Hollywood, on va créer des films de cinéma. Avec cette chose assez importante, c'est que c'est très souvent le projet, c'est d'autonomiser la franchise cinématographique. Je prends le cas de Resident Evil. Si vous regardez la communication qui est faite sur le film au moment de la sortie du premier épisode à la fin des années 90, vous avez le lien est marqué avec la série de jeux Capcom. À partir du deuxième épisode, la source vidéoludique est totalement effacée. C'est-à-dire que l'enjeu pour les producteurs, c'est de faire de Resident Evil une franchise cinématographique pure et pas être du tout encombré de ce rattachement au jeux vidéo. C'est des processus qu'on peut voir sur pas mal de séries adaptées de jeux vidéo.
Mais au-delà des adaptations, est-ce que le cinéma ne ressemble pas de plus en plus aux jeux vidéo, Alexis Blanchet?
Alors, on peut dire qu'il y a un effet générationnel qui va jouer. Aujourd'hui, à la tête de production, et de production assez ambitieuse, on a une génération de réalisateurs qui s'est constituée une culture de l'image à travers le cinéma, la télévision certes, mais aussi le jeu vidéo. Et ces réalisateurs vont depuis la fin des années 90, parfois pour chercher la connivence avec le spectateur de cinéma qui est aussi un joueur de jeu vidéo, parfois pour essayer de travailler des codes du jeu vidéo et les intégrer à leur mise en scène, vont faire des clins d'œil aux jeux vidéo. On retient par exemple que Christophe Gans, sur le tournage du Pacte des Loups, jouait à un jeu qui s'appelle Soul Calibur. Un des personnages du jeu vidéo possédait Ivy, possédait une épée rétractable et extensible, et il reprend ce motif-là dans une séquence de combat qui clôt son film. Donc c'est parfois le clin d'œil, c'est parfois la mécanique. Dès 93, sur un jeu sur un film de cinéma comme Un jour sans fin, on retrouve la mécanique du die and retry, qui est très propre aux jeux vidéo d'arcade, c'est-à-dire ces jeux vidéo où on va devoir échouer un grand nombre de fois avant de progresser dans le niveau et de pouvoir passer de niveau en niveau. Dans Un jour sans fin, vous savez, cette intrigue de ce personnage qui revit indéfiniment la même journée, il rentre un moment dans une stratégie de séduction vis-à-vis du personnage féminin qui est incarné par Andy McDowell. Et il va tenter différentes choses pour répondre à ses attentes, pour comprendre ses goûts. Et au niveau du montage, ça fonctionne par un système de die and retry et d'une certaine façon de point de sauvegarde, c'est-à-dire que le monteur et le réalisateur décident chaque fois de rejouer certaines séquences, de constater l'échec du personnage et de reprendre au moment où on lui donne une nouvelle chance.
Est-ce que cette évolution esthétique, Alexis Blanchet, ne vient pas aussi du fait que l'industrie du jeu vidéo, qui a peut-être plus de liberté d'expérimentation qu'Hollywood, serait devenue une sorte de moteur de l'innovation cinématographique, du point de vue technique ?
Alors, du point de vue technique, c'est sûr que les échanges se sont multipliés depuis le début des années 90. D'abord, dans un sens qui était du cinéma vers le jeu vidéo, au moment où les supports optiques, au début des années 90, le CD-ROM, le CDI, le laserdisc, ont été utilisés par les créateurs de jeux vidéo. À ce moment-là, on voit apparaître des échanges très nombreux entre des studios de jeux vidéo et des acteurs, par exemple, des réalisateurs, des scénaristes d'Hollywood qui vont venir essayer de produire des jeux vidéo avec la possibilité d'insérer dans les jeux des séquences filmées en prise de vue réelle avec des acteurs. À partir de la deuxième moitié des années 90 et surtout début des années 2000, on a ce qu'on appelle des pipelines logiciels qui vont fonctionner entre l'industrie du cinéma, je pense particulièrement aux films d'animation en 3D, en images de synthèse, et l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va retrouver à l'œuvre des techniques qui sont les mêmes, par exemple la capture de mouvement. On va retrouver des logiciels qui permettent de créer des images très haute définition pour le cinéma et basse définition pour les jeux vidéo, puisque à la fin des années 90, les machines de jeu sont pas suffisamment puissantes pour produire des images de la qualité de celles qui sont utilisées sur les écrans de cinéma. Et c'est sûr que avec ces outils, eh bien, il y a des contacts, il y a des échanges qui sont très nombreux, et surtout dans un moment où l'image de synthèse envahit une bonne part de la production de films de cinéma.
Alors Alexis Blanchet, on parle beaucoup d'Hollywood et des États-Unis, mais qu'en est-il de la plus grosse industrie cinématographique mondiale, Bollywood? Allez, on va en Inde maintenant. Avec cette musique Touch Me sur la bande originale du film Doom 2, l'un des Bollywood adaptés avec succès en jeu vidéo, car en Inde, les adaptations du cinéma si populaires ont une place particulière. Nous sommes avec Alexis Madinier, game designer et directeur de l'école Supinfo Game à Pune, en Inde, autrement dit à proximité directe de l'industrie de Bollywood. Alexis Madinier, le cinéma indien offre aujourd'hui de nouvelles perspectives de développement au marché du jeu vidéo ?
Oui, tout à fait. Donc en Inde, il faut savoir effectivement que l'industrie du jeu vidéo a explosé depuis 2008. On est passé de environ 12-13 studios à plus de 170 cette année. Le revenu du jeu vidéo en Inde aussi a explosé. On reste encore très en dessous des autres pays en termes de sommes, mais les jeux liés au Bollywood représentent à peu près 15% du chiffre d'affaires du jeu vidéo en Inde. Maintenant, c'est ce chiffre de 15%, même s'il est énorme, est à relativiser, car la plupart de ces jeux sont en fait des jeux qui fonctionnent sous le modèle freemium, et l'argent, le revenu en fait est lié aux publicités qui sont à l'intérieur du jeu ou au contenu qui est vendu à l'intérieur du jeu, pas directement aux ventes du jeu, puisque le jeu est gratuit. Mmh. Maintenant, ces 15% sont aussi liés à l'argent que met la boîte de production du film. En fait, ces jeux-là, ce sont les mêmes types de jeux qu'on a en Europe ou aux États-Unis sur l'industrie du cinéma. C'est des jeux à but marketing. Un studio fait un nouveau film à succès et tout de suite, ils veulent les produits dérivés. Et dans les produits dérivés, le jeu en fait partie. Donc, il n'y a pas énormément de production chaque année, mais ça représente une grosse partie de l'argent, du revenu du jeu vidéo en Inde.
Mmh. Est-ce que le fait d'adapter en fait des films populaires, c'est un moyen de toucher un public qui n'était pas sensible à la culture vidéoludique ?
Tout à fait. Bah, les acheteurs de ce genre de jeux sont en premier des fans de Bollywood ou des acteurs de Bollywood. C'est pour ça que la qualité même du jeu en soi est souvent assez faible. La plupart du temps, c'est des copies de jeux qui existent déjà et ça vole pas très haut. La durée de vie de ces jeux est très très limitée, mais ils s'adressent effectivement à plus un mass market que les jeux vidéo classiques.
Quelles sont les adaptations qui ont particulièrement bien marché récemment ? Il y a eu Rawan, puis on remonte un peu, Doom 2, Gajini, vous pouvez me parler un peu de quelques exemples ?
Oui, Rawan, ils ont fait une très bonne opération avec Sony en faisant même des consoles PlayStation 2 et PlayStation 3 dédiées à Rawan, où il était vendu en bundle, où la console était peinte avec l'affiche du film. Les gros succès du moment, c'est Chennai Express, ça reste Doom 3 qui vient de sortir très récemment, qui est un jeu de voiture principalement. Krish 3 aussi, gros succès de l'année en film qui fonctionne très très bien et qui ramène beaucoup d'argent à ses développeurs. Il y a eu il n'y a pas très longtemps Don't Two, qui a bien fonctionné aussi. Par an, il y a Il y a un peu moins d'une dizaine de jeux qui sortent sur le thème, donc on s'en souvient assez vite de ceux qui existent.
Est-ce que d'après vous, Alexis Madinier, le style Bollywood, et en particulier ce qu'on peut appeler le cinéma masala, ce cinéma épicé, se prête particulièrement bien en fait à l'adaptation du jeu en jeu vidéo ? C'est-à-dire à cause du manichéisme de ces films, à cause de la présence de la musique ?
Alors, tout à fait. En fait, le cinéma d'Hollywood est une source d'inspiration énorme au niveau de tout ce qui est storytelling pour les développeurs indiens, puisque c'est la seule source indienne récente de création de héros, de méchants, de dialogues, d'histoires. Soit un développeur crée tout à partir de zéro et se base sur la culture westerner, comme on dit, ou alors il utilise le Bollywood. Donc, c'est une bonne source d'inspiration. Tout à fait.
Alors, le cinéma indien rayonne dans toute l'Asie. Est-ce que ça veut dire que le marché du jeu adapté de Bollywood pourrait lui aussi avoir des perspectives de croissance au-delà des frontières indiennes ?
Il pourrait, mais pour l'instant, ça reste encore très, très, très limité. J'ai regardé dernièrement les chiffres de téléchargement sur l'App Store et sur Google Play. On a des surprises avec des pays qui téléchargent beaucoup ces jeux, mais ça reste surtout des. En fait, par exemple, Dubaï. Là, on ne savait pas, mais Dubaï télécharge beaucoup les jeux Bollywood. Mais quand on analyse un peu les chiffres et qu'on regarde la population de Dubaï, on se rend compte qu'il y a énormément d'Indiens qui vivent à Dubaï, ce qu'on appelle les NRI, les Non-Resident Indians. Il y en a beaucoup tout autour de l'Inde. Il y en a beaucoup à Singapour, dans la péninsule arabique. Et donc ces gens-là, en fait, consomment du produit indien. Ce ne sont pas les pays en soi qui consomment des produits indiens. Ce sont les Indiens expatriés qui consomment.
Alors vous, donc vous êtes directeur d'une école de jeux vidéo française en Inde, à Pune. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des perspectives de développement là-bas, y compris pour une industrie du jeu occidentale ? Et est-ce que les États-Unis, la France investit dans le jeu en Inde ?
Les perspectives ici sont énormes. Certains acteurs l'ont bien compris, comme les Japonais, par exemple. On voit de plus en plus de sociétés japonaises et d'investisseurs de grands groupes médias japonais qui viennent frapper à notre porte et qui s'installent sur Bombay ou dans le Maharashtra. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, on sait tous que l'Inde, c'est un pays de technologie et d'IT, donc tout ce qui est programmation nécessaire au développement de jeux vidéo, les talents sont là potentiellement, après avoir appris comment faire. Pareil pour tout ce qui est partie artistique. L'Inde est depuis des années un pays où les grands studios américains sous-traitent leurs effets spéciaux ou leurs animations pour leurs films 3D, même les Français. Et nous sommes là en tant qu'école de game design, de programmation et de game art, justement pour leur amener la culture jeux vidéo, comment on fait des jeux vidéo en Europe et aux États-Unis, et comment simplement faire des jeux vidéo. C'est seulement ça qui n'était pas là. De plus en plus, on voit des studios qui sont sur le point de créer des vraies productions de qualité internationale. Par eux-mêmes, je dirais, puisque les investisseurs étrangers ne se pressent pas tant que ça à la porte. À part les Japonais, les Français, les Américains, les Français sont présents par l'intermédiaire d'une filiale d'Ubisoft, les Américains sont présents par une filiale d'Electronic Arts, mais c'est à peu près tout.
Ouais, parce qu'au départ, les Indiens étaient essentiellement des sous-traitants pour les studios occidentaux. Aujourd'hui, avec ce nouveau marché, on voit des studios comme FX Labs, par exemple, s'autonomiser dans les Silicon Valley en Inde.
Tout à fait. Je vais vous prendre l'exemple de Druva Interactive, qui est un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux studio de développement indien. Ils ont commencé par faire de l'outsourcing pour toutes les grandes boîtes françaises, américaines. Ils ont travaillé sur d'énormes projets en faisant simplement de la production artistique pour ces projets. Et depuis une dizaine d'années, ils ont aussi ouvert leur studio de développement et ils apprennent sur le tas par eux-mêmes à faire des jeux, et aujourd'hui c'est une société, un studio de jeux, un des plus importants en Inde.
D'accord. Il y a aussi, pour finir, le développement d'un marché du jeu très local. Je pense aux adaptations de films de Tollywood, ces films en langue telugu. Est-ce que finalement l'ampleur et la diversité du sous-continent indien permet de développer des sous-marchés du jeu ?
Complètement, c'est même là-dessus que misent certaines sociétés étrangères, comme par exemple Square Enix, grand publisher japonais qui vient s'implanter en Inde. Leur but, c'est justement de développer le marché indien avec des productions locales et de créer un sous-marché qui n'a pas besoin de fonctionner sur le plan international. Les nombres sont là, il ne reste plus qu'à régler certains paramètres pour que, comme Square Enix dit, l'effet Bollywood dans le jeu vidéo se produise, c'est-à-dire cette explosion du marché local avec contenu dédié local. Voilà, les paramètres qui font que ça ne fonctionne pas encore, mais que ça va pas tarder à fonctionner, c'est principalement un problème tout bête et financier. La population indienne qui possède une carte de crédit est très faible, et parmi cette population, ceux qui utilisent leur carte de crédit pour acheter quelque chose sur Internet est encore plus faible, et ceux qui utilisent quelque chose pour acheter sur Internet à travers leur téléphone est encore plus faible. Donc c'est vraiment là le vrai problème. Je crois que les derniers chiffres de chez Visa et Mastercard, c'est 1,2 million d'utilisateurs sur téléphone font des micro-paiements sur téléphone. À partir de là, c'est très difficile pour les développeurs indiens de vendre. Le marché est tout petit, le marché de gens qui payent est tout petit, mais le marché potentiel, il y a 300 millions de téléphones qui peuvent jouer des jeux vidéo en Inde, mais le problème du paiement reste entier. C'est pour ça que beaucoup de banques et de sociétés cherchent des moyens de paiement alternatifs, avec de l'argent électronique direct, à travers le téléphone, des micro-paiements de téléphone à téléphone, des transferts d'argent, des choses comme ça.
Merci beaucoup Alexis Madinier, directeur de l'école de jeux vidéo Sup Info Game à Pune en Inde. Il nous reste 30 petites secondes, une courte réaction Alexis Blanchet.
Oui, je crois qu'il faut observer ce qui se passe en Inde, parce que la culture indienne et les films de Bollywood sont très populaires ici même en Europe. Hein. On voit leur succès en Angleterre et même ici en France quand une star se déplace à Paris, la foule que ça rameute. Donc probablement qu'il faut être attentif à ces logiques un peu de culture nationale qui vont probablement nous intéresser bientôt. Ouais.
Merci beaucoup Alexis Blanchet d'avoir été avec nous. Je rappelle, maître de conférence à l'université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous avez écrit Des pixels à Hollywood en 2010 aux éditions Pix & Love et Les jeux vidéo au cinéma chez Armand Collin en 2012. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, Antoine Dulster, Salomé Vio. À la réalisation, c'était Doria Zénine. À la technique, Régis, Nicolas. Dans un instant, on retrouve La Grande Table, juste après le journal de la rédaction à 12h, mais tout de suite, c'est La Vie Moderne.
France Culture.
La Vie Moderne, le programme de fiction de la mi-journée sur notre réalité au quotidien. Cette semaine, Malheur aux barbus, de Pierre Dac et Francis Blanche. À la réalisation, c'est Cédric Ossire.